Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le Bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier. Moi, c'est Paul, et tous les mois, je vais vous emmener dans les coulisses des startups et des entreprises innovantes, à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui vont me raconter leur aventure. Ils partageront avec vous leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Tordre le cou aux préjugés qui planent au-dessus de la Startup Nation et tenter de vous donner les principales clés pour réussir votre projet. Bonne écoute !
On ne naît pas entrepreneur, je pense.
Ça va être la licorne, si possible.
Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul.
Dans le fond de ma tête, l'objectif, c'était 1 million d'euros.
C'est ce qu'on appelle l'effet de levier.
Passe-moi le bic, dans les coulisses des startups.
Lorsque l'on vient juste de lancer sa startup et de créer son innovation, il n'est pas toujours évident de fixer son prix et son modèle économique. Pour trouver le juste tarif de son offre ou de son produit, une parfaite connaissance de sa cible, des concurrents et des coûts est incontournable. Nous allons aborder cette question sous deux angles très différents en compagnie de deux entrepreneurs du BIC de Montpellier. D'abord, Mariam Bini, cofondatrice de Soledge, qui a lancé avec son mari une innovation dans le secteur de la Hi-Fi. Et ensuite, Sébastien Bernis, qui commercialise une solution SaaS d'analyse de marché. À travers leurs deux témoignages, vous allez vous rendre compte que les stratégies de définition de prix et de business model diffèrent totalement que l'on parle d'une offre software ou d'un produit hardware.
Je m'appelle Mariam Bini, j'ai une formation en école de commerce et j'ai été responsable marketing dans plusieurs sociétés, souvent liées à l'innovation dans le logiciel et le hardware. Soledge a été créé en 2010 par mon conjoint que j'ai rejoint sur la partie marketing pour l'aider à lancer l'entreprise. C'est l'histoire d'un passionné de Hi-Fi qui a voulu dématérialiser tous ses CD et les regrouper en un seul endroit en utilisant les courants électriques de la maison pour diffuser le son, pour rapprocher en fait le plus possible les amplificateurs des enceintes. En fait, quand tu lances un produit, on va dire un logiciel, c'est quand même... Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile que quand tu as un produit fini. Parce que produit fini, il faut le fabriquer, il faut le produire, il faut faire connaître la marque, surtout dans un milieu Hi-Fi qui était très traditionnel, très fermé en termes de nouveautés. Donc, c'est un vrai défi en termes de marketeur. Est-ce que t'as pas de budget marketing dédié, t'as pas de budget communication? Enfin, t'en as un très très faible. Donc, c'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup d'inventivité et d'imagination pour intégrer ce marché et te faire connaître. Pour fixer le prix, déjà, rien que pour fixer le design du produit et autres, on est allé voir plusieurs revendeurs dans notre domaine en France, dont un à Montpellier avec qui on était partenaire, qui nous a permis de voir aussi quel était le prix psychologique finalement qu'on devait avoir pour que ça soit pas trop déconnant. De toute façon, le prix, tu le fixes aussi par rapport à tes charges, à ton coût de revient, et tu te fixes une 30% de marge, sinon tu ne peux pas vivre. Donc, du coup, il y a tous ces éléments-là qu'on a pris en compte pour fixer le prix du produit. Mais effectivement, c'est très compliqué quand tu as un produit qui n'existe pas sur le marché, de te dire qu'il y a un prix et que quel prix tu fixes pour que ce soit accepté par les gens, quoi. Nous, notre choix, en fait, à la création de l'entreprise, c'était de se dire qu'il faut qu'on reste 100% français dans la fabrication. Bien sûr, non pas les composants, puisque les composants électroniques, on n'a plus de fabricants en France, mais vraiment tout ce qui était Corian. On a travaillé avec une entreprise qui est vers la Mosson, tout ce qui est design de l'acier, des différents produits. On a travaillé avec une entreprise à Villeneuve-les-Maguelones. Tout ce qui était assemblage, pareil, sur Montpellier. Donc, on a vraiment fait en sorte de travailler 100% Made in France et 100% Made in Montpellier. Ouais. Tous ces éléments-là ont fait que notre prix de produit était cher, mais pas finalement, en y repensant aujourd'hui, pas tant que ça par rapport aux produits qui existaient déjà sur le marché. Tu as les coûts de production, ton innovation aussi, et tes années de recherche et de développement. Et puis, tu as aussi les marges des distributeurs et la marge des revendeurs de tes distributeurs. Donc, au final, quand tu as tout ça, ça te fait à chaque fois des strates en plus. Et il faut aussi surtout que dans le monde entier, ton prix soit le même, pour pas qu'il y ait de différence entre un Australien et un Japonais, parce que dans ces cas-là, le client australien, il prend l'avion, il va acheter chez le Japonais. Donc, il y a aussi la guéguerre entre les différents distributeurs qui nous disaient que partout dans le monde, ce soit le même prix et que ça ne soit pas revendu sur Internet. Puis, quelque part, quand tu dis aussi que tu as un produit made in France, tu te mets sur du luxe. Donc, le prix est un peu plus acceptable psychologiquement que quand c'est un logiciel à 15 000 euros. C'est un peu plus compliqué qu'un produit fini. On a fixé un prix dès le départ, en fait. Et c'est là où on a peut-être fait une erreur, parce que c'était des revendeurs français. Donc, on n'avait pas tout de suite vu les conséquences au niveau international. Et du coup, à l'international, on perdait de l'argent. Donc, je pense que, quelque part, vaut mieux partir très élevé et affiner vers le bas. Et quand tu es sur de l'international, discuter avec des distributeurs qui, eux, discutent avec leurs revendeurs aussi sur les tarifs. Et c'est les plus à même de te conseiller quand tu fais ton étude de marché. Tu peux pas, quand tu es dans le hardware, faire des coups bas, même si tu as fait une levée de fonds, puisque du coup, l'image que tu donnes de ton produit est une image d'un prix qui est bas. Mais tu peux pas, d'un prix bas, aller vers un prix élevé. Par contre, d'un prix élevé, tu peux baisser tes coûts et descendre en gamme. Ça, c'est possible. Et effectivement, si on avait fait une énorme levée de fonds, on aurait pu faire des nouveaux produits et du coup, avoir plus de produits vendus, ça nous aurait permis de réduire les coûts de production et d'industrialiser à grande échelle, ce qui, effectivement, aurait permis de sortir des produits moins chers. Mais toujours en ayant des produits chers pour avoir une gamme qui descende. Tu ne fais pas une gamme où tu pars d'un produit bas, parce que du coup, tu es connu comme fabricant de produits pas chers, et l'image de construire une image d'un fabricant qui fait des produits de qualité avec des produits chers, c'est toujours plus compliqué de partir du bas vers le haut que du haut vers le bas. Le monde de la hi-fi, c'est un marché de niche, mais ce n'est pas un marché de luxe. Et il y a comme tout... Alors souvent, les gens, quand on leur dit hi-fi, ils pensent à Sonos ou à Bose ou tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ce marché-là. Là, on parle de marques qui sont mondialement reconnues. En plus, on a en France de très, très belles marques reconnues mondialement et qui représentent 50 milliards de dollars en termes de marché. Donc, ce n'est pas n'importe quel marché de niche non plus. Donc, c'est vrai qu'on était dans l'entrée de gamme, finalement. On n'était pas dans le très haut de gamme du haut de gamme. Notre vision, c'était vraiment de se dire un jour, on intégrera comme Intel la technologie SolEdge à l'intérieur des enceintes. Donc ça, c'était notre vision. Et en 2015, quand on est arrivé au CES de Las Vegas, on a eu des remarques de grands groupes d'électronique internationaux et d'autres typologies de personnes qui nous ont dit « c'est génial ce que vous faites, mais nous, ce n'est pas les produits qui nous intéressent, c'est votre technologie ». Donc on a dit « non, nous, on est sur le produit, parce que le produit nous permettait de faire connaître notre technologie ». Et en fait, fin 2015, début 2016, on a été sélectionnés par Bang & Olufsen, qui avait créé un accélérateur dans l'audio pour détecter les nouvelles technologies au niveau mondial. Et en intégrant cet accélérateur, on a travaillé vraiment la vision de vente, non plus de produits, mais de technologies et de cartes électroniques. Donc, c'est vrai qu'on a énormément travaillé, du coup, le prix de la licence et le prix des cartes électroniques. On est reparti finalement sur la création de nouveaux produits, même si c'était des produits existants, parce que ce n'était plus des produits hardware et une gamme de produits à destination du grand public, mais ça devenait une gamme de produits à destination... on faisait du B2B, quoi. On ne faisait plus du B2B2C. On a remis à plat complètement notre modèle économique. Et en fait, on s'est aperçu qu'en vendant en B2B, ça devenait beaucoup plus simple en termes de production et en termes de responsabilité aussi. Parce que quand tu vends un produit électronique, le client final chez lui, le produit prend feu, c'est toi qui es responsable. Donc, du coup, ça permettait aussi de se dégager aussi également des problématiques de production. Du coup, on se concentrait sur vraiment notre savoir-faire et notre technologie. On s'est aperçu qu'on thésaurisait aussi sur la marque et tout ce qu'on avait fait en termes de communication pendant les salons et de se faire connaître et tout ça, parce que Soledge, finalement, c'était connu pour ses produits, pour son innovation, et que des marques d'enceintes nous connaissaient déjà. Et quand on a commencé à aller les voir pour leur parler de notre technologie quand on était au Danemark, ça a aussi ouvert un petit peu plus rapidement les portes que si on essaie de zéro et qu'on arrivait avec une nouvelle techno. Et aujourd'hui, on vend nos cartes électroniques et notre technologie à des fabricants d'enceintes et aussi à des entreprises d'électronique grand public. Donner un conseil à quelqu'un, c'est toujours très compliqué puisque chaque entreprise est différente et chaque produit est différent sur son marché. Mais je pense qu'il faut surtout ne pas hésiter à se confronter aux futurs clients. Donc, aller les voir en leur montrant les fonctionnalités, en parlant prix, pas qu'à une personne, mais à une 10, 15, 20, 30, 100, 1000 personnes s'il faut. Quand tu sais qu'il faut que tu passes par des distributeurs, faut les appeler, faut leur parler. Et ils sont plutôt là, bienveillants, et ils t'aideront aussi à fixer un prix. Voilà, faut s'entourer, parce que quand on démarre une entreprise, on est loin de connaître tout sur tout. Et il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Il faut pas hésiter à aller les voir. Donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas rester dans son coin et aller voir les gens et discuter avec les gens. Et ne pas avoir peur de parler de son produit, puisque toi, tu es déjà avancé dans ta tête et dans ta fabrication, alors que si d'autres commençaient à faire la même chose que toi, ils mettraient autant de toi que toi, tu as eu à le faire. Il ne faut pas avoir peur de se faire piquer son idée, son produit ou son marché. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment aujourd'hui avoir l'esprit ouvert et aller demander des conseils à tout le monde.
À travers ce témoignage, vous comprenez qu'il est important de prendre en compte de nombreuses composantes pour fixer son prix, notamment lorsque l'on lance une innovation hardware très technologique. Voyons maintenant comment cela se passe avec un software à travers l'expérience de Sébastien et de sa solution Price Comparator.
Je m'appelle Sébastien Vernis, je suis le dirigeant fondateur de Price Comparator. C'est une société que j'ai créée il y a 7 ans maintenant, en 2013, d'abord comme une agence digitale, puisque c'était mon métier d'origine. Ma première expérience professionnelle, c'était dans un e-commerce de bord de mer, un magasin local, qui avait aucune activité sur Internet quand j'y suis arrivé. Et donc, il a vécu sa transformation digitale. Quand on est tout petit et qu'on veut rentrer sur un marché, c'est pas très facile d'être visible. Et surtout, vous n'êtes pas en position de force. Donc, vous avez des concurrents qui sont beaucoup plus présents que vous, beaucoup plus visibles. Donc, ce qu'on a fait dans cette démarche purement marketing, c'est d'identifier toutes les publicités qui pouvaient être proposées par nos concurrents et d'y répondre systématiquement. Et les résultats ont été énormes, hein, puisque ce tout petit magasin de bord de mer est devenu aujourd'hui le leader français dans son secteur d'activité. Donc, c'est une expérience qui est tout à fait pertinente. Et j'ai compris surtout que la réactivité était un élément clé dans la stratégie marketing, et surtout qu'elle était possible uniquement si on automatisait la récupération de ces informations. Et c'est comme ça qu'est née, bien sûr, l'idée de Price Comparator. Alors, les tout premiers prix qu'on a proposés pour vendre notre solution, ils ont été assez difficiles à élaborer, parce que on a d'abord fait ce qui me semble être la meilleure des démarches, c'est regarder les prix de la concurrence sur des propositions d'offres qui sont, disons, comparables, équivalentes. Typiquement pour Price Comparator, encore aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui nous disent « Oui, mais vous êtes un comparateur de prix », alors qu'on est une solution qui fait de l'étude de marché en temps réel. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose, mais selon la maturité du marché et de votre produit et de la conscience globale et de la culture même de la population que vous visez ou de vos prospects, vous n'allez pas forcément être capable de faire entendre facilement ce que vous proposez et en quoi c'est différenciant. Alors, l'avantage qu'on a quand on est dans l'innovation, c'est qu'on peut réagir vite, qu'on peut produire vite. Et souvent, ça passe par ce qu'on appelle un POC, donc un espèce de test pour faire la preuve du concept. Donc, ça a permis de valider certains prix. Et je vais tout de suite révéler un secret qui est important, c'est qu'il faut tester, en fait, beaucoup. Il faut se challenger beaucoup, il faut prendre des risques. Donc, vous pouvez tout à fait tenter de faire divisé par 2, fois 2, et de voir si ça fonctionne toujours, en fait. Ça a plein de vertus de se challenger, de faire est-ce qu'à x2, ça passe toujours ? Ou bien, quand ça passe pas, est-ce qu'à diviser par 2, tout à coup, ça devient faisable ? Parce que ça marche dans les deux sens, forcément. Jusqu'à ce qu'on trouve, finalement, le prix du marché, ou en tout cas le prix psychologique, qui fonctionne avec la majorité des prospects. Du coup, pour structurer le prix, on peut intervenir sur plusieurs niveaux de compréhension. Donc, il y a bien sûr l'abonnement qui est mensualisé, puisqu'on a un logiciel en SaaS, donc chaque mois, nos clients vont payer. Mais il y a deux autres leviers sur lesquels on peut intervenir. Le premier, c'est toute la partie setup. Le deuxième levier qui est très important, c'est sur l'engagement. Soit vous êtes capable de vous engager sur les résultats, un peu risqué, mais pourquoi pas. Soit vous allez limiter le risque pour vous avec une période d'engagement et puis essayer de faire accepter, s'il y a un risque perçu par vos prospects, essayer de faire accepter cette durée d'engagement. Donc au début, on était sur un an, par exemple. C'est quand même globalement la périodicité qu'on a gardée. Mais pour certains projets, on accepte de faire des offres avec des engagements moins longs quand ils ont un risque un risque perçu un peu plus fort. Mais pour nous, c'est aussi une façon d'engager les clients dans une relation durable, parce que c'est quand même notre business model, c'est de travailler sur de la confiance, sur de la qualité des données, comme je disais tout à l'heure, mais surtout de donner de la qualité de conseil. Moi, j'aime bien l'idée de proposer de la souplesse à nos clients. Le modèle normal, entre guillemets, c'est plutôt de dire, voilà, il y a un petit setup de démarrage. Quand on est une startup, c'est intéressant parce que ça fait un peu de trésorerie, ça permet de montrer aussi, de démarrer la relation. Et puis ensuite, on part sur de la mensualisation. Bon. Mais parfois, on a des prospects qui nous demandent, qui ne comprennent pas le setup, par exemple. Ils se disent, non, je ne comprends pas. Et dans ce cas, moi, je considère qu'on peut faire preuve de souplesse. Voilà, vous avez plein d'offres maintenant SaaS où on vous dit si tu payes chaque mois, c'est tant. Si tu payes à l'année, on te fait une remise de 5 ou 10%. Ça donne de la visibilité pour la startup sur sa trésorerie, de la visibilité sur la durée du contrat, puisqu'elle sait que pendant 12 mois, le client ne va pas partir. C'est intéressant, vous allez avoir des clients qui vont vous dire « Non, le setup est trop cher ». Vous le lissez sur 12 mois et tout à coup, ok, parfait, ils sont contents. Alors qu'à la fin, au bout de 12 mois, ça aura le même coût. Voilà, il y a des perceptions qu'il faut accepter. Des fois, ça paraît trop cher. Et si vous êtes capable de faire preuve de souplesse, ça devient acceptable. Donc, c'est très confortable. On a d'autres exemples où on a vraiment découpé, saucissonné le tarif à l'unité. Donc, c'est par exemple, moi, je veux surveiller entre 1 et 50 ou 300 sites. Et là, il avait envie d'avoir quelque chose à la carte. Donc, si j'en rajoute un, combien ça coûte ? Et si j'en enlève un, combien ça coûte ? Donc, la plupart du temps, on va travailler au forfait. Lui, ça ne lui convenait pas. Il avait envie de payer la réalité de ce qu'il consommait. Et on a adapté notre business model. On a refait un contrat cadre tout entier que pour lui. Et plutôt que de bloquer, de dire nous, c'est comme ça et pas autrement, des fois, ça vaut le coup de poser des questions pour comprendre pourquoi et puis de chercher ensemble des solutions, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer peut-être son potentiel, sous-estimer son innovation, sous-estimer la valeur ajoutée de sa solution ou de son produit. Et c'est vrai que la tentation est assez grande de proposer des prix assez bas, d'autant qu'on a des frais de fonctionnement qui sont très bas. Vous pouvez essayer de vous rassurer peut-être un peu au début, essayer d'attraper vos premiers clients pour vous donner un peu d'élan et vous rassurer sur le produit, avoir des cas d'usage très importants, avec des retours des premiers clients, avec des expériences de vécu sur la solution, sur le produit que vous vendez. Mais assez vite, il faut quand même rentrer dans une logique de cohérence entre votre innovation, la valeur ajoutée de ce que vous produisez, et puis le coût réel de ce que ça demande. Il y a une vraie difficulté dans le secteur de l'édition de logiciels pour valoriser au bon niveau les logiciels qu'on produit, en fait, qu'on édite. Tout simplement parce que Internet, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites et la perception des clients, qu'il soit B2B ou B2C, c'est souvent que c'est gratuit. En fait, tout ce qui est gratuit, forcément, c'est qu'il y a une contrepartie, soit avec vos données, soit avec un usage ou autre. Mais en tout cas, ça ne se voit pas tout de suite. Mais ce qui se passe, c'est que ça donne une impression, ou en tout cas un prix psychologique à vos prospects qui est parfois très très basse, voire gratuite. Il y a une incohérence entre vous proposer quelque chose avec une très forte valeur ajoutée, mais leur perception, elle est très faible. Donc, ils ont envie de payer très peu. Donc ça, c'est une difficulté, mais qui n'est pas propre à Price Comparator, loin de là, mais qui est globalement sur le logiciel en général. Si votre interlocuteur, il a compris que ce que vous vendez répond parfaitement à son enjeu, s'il a compris que ça va être totalement rentable, finalement, le coût de ce que vous lui vendez n'a aucune importance. Et si vous arrivez dans une logique argumentaire, entre guillemets, même si ce n'est pas de l'argumentaire, mais en tout cas dans une logique de présentation, alors beaucoup d'écoute au départ de votre prospect, mais surtout après dans une logique de réponse à ses enjeux, eh bien, il n'y a pas besoin de discuter du prix. Puisque, quel que soit le prix, il va tellement être rentable pour lui que votre produit, il le veut en fait. S'il y a bien une chose qui me paraît importante, c'est de tester. Il faut essayer. Il faut essayer tout. Il faut tester tout. Parce que y a toujours quelque chose à prendre dans chaque expérience déjà. Et puis surtout, c'est source de révélation en fait. Et si je leur ajoute cette option, et si je l'enlève, et si je mets plus cher, et si je mets moins cher, et si je le fais en 12 fois, et si je le fais sur 2 ans, et si on engage plus longtemps, est-ce que peut-être on divise le prix de 20, on enlève 20, 30%? Il y a des entreprises qui sont OK pour faire ça. Si vous avez réussi à marquer le coup, vous avez une vraie innovation sympa, voilà, si vous êtes différenciant, si vous êtes inspirant, peut-être que tenter l'abonnement sur 5 ans, alors que d'habitude vous faites sur 3 mois, peut-être que sur 5 ans ça peut passer avec certains. Enfin, voilà, donc il ne faut pas hésiter à tester des choses, même si ça ne paraît pas naturel, et surtout si d'autres ne l'ont pas fait, c'est le moment de le faire sans aucun doute.
Nous venons juste d'écouter les histoires de Mariam et Sébastien qui nous ont raconté comment ils avaient affiné leur prix et leur stratégie au fil des mois. Je suis à présent avec Florent, chargé d'affaires au BIC de Montpellier. Bonjour Florent, j'aimerais avoir ton avis sur les enjeux du prix et du modèle économique.
Trouver un modèle économique, fixer un prix adapté, c'est déterminant pour toute entreprise. Les prévisions de vente peuvent se corriger assez facilement. Une fonctionnalité, ça se rajoute. Mais par contre, se tromper sur son modèle économique, ça peut être désastreux. On peut mettre beaucoup de temps et perdre énormément d'argent à corriger le tir. Il faut donc tester son modèle économique, ses prix très tôt auprès de ses prospects et de ses clients. L'avantage qu'a une startup, c'est qu'elle est agile, elle peut pivoter, c'est-à-dire qu'elle peut facilement changer de cap et de modèle économique.
J'aimerais maintenant savoir quelles sont, selon toi, les différentes méthodes pour fixer son prix.
En fait, on classe souvent ces méthodes en plusieurs catégories. L'analyse de la demande, l'analyse de la concurrence et l'analyse des coûts. Et en général, en plus, on mixe ces trois approches pour déterminer son prix. Sur des offres innovantes, la demande n'est pas forcément claire. Le client n'a pas forcément une vision précise du service qui lui sera fourni. Et en plus, il n'y a pas toujours de concurrence directe face à laquelle se positionner. Dans ce cas, pas le choix. Il faut aller sur le terrain, rencontrer ses prospects, analyser la valeur qu'on va leur apporter. Et le prix et le modèle économique, on va les trouver au contact des clients. On incite les entrepreneurs à aller très vite rencontrer leurs futurs clients, leurs prospects, parce que c'est là que se situe la vérité du business finalement. C'est là qu'on va savoir, d'une part, quels sont les vrais besoins, quels sont les enjeux, qu'est-ce que l'entreprise peut apporter à ces clients-là, et derrière également, quelle est la valeur qui va être apportée, donc quels vont être le prix et le modèle économique qu'on va pouvoir appliquer.
Et peux-tu m'expliquer de manière concrète comment on va à la rencontre des clients sur le terrain et quelles sont les questions à leur poser ?
Lorsque l'entrepreneur va voir le client, il doit évidemment poser des questions en relation avec le produit ou l'offre qu'il va proposer. Mais également, il faut qu'il arrive à poser des questions pour comprendre quelle est la valeur de sa solution, qu'est-ce que sa solution va faire gagner au client. Combien ça va rapporter ou combien ça va faire économiser au client. Ça va être des indicateurs qui vont permettre à l'entrepreneur de mieux fixer ses prix et même éventuellement son modèle économique.
Et enfin, si tu as un dernier conseil à leur donner?
C'est toujours aller voir le client. Pour moi, c'est l'élément principal et c'est souvent le défaut que vont avoir les entrepreneurs. C'est de trop rester dans leur bureau et de trop rester à se dire qu'ils développent le produit idéal et le produit qui va répondre aux besoins des clients. Or, c'est quand même le besoin client, le terrain qui va déterminer quel va être ce besoin client et quelle va être la valeur apportée par le service.
Je te remercie beaucoup, Florent, pour tous tes conseils. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux construire votre stratégie de prix et votre modèle économique. À bientôt. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.